destination Auvergne-Rhône-Alpes. Voyageons chez nous. Partons à la découverte de l'insolite en Auvergne-Rhône-Alpes. Destination Auvergne-Rhône-Alpes, la chronique estivale des radios de la Fédération ORA-FM.
À l'écoute de votre radio locale préférée, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Pour ce nouvel épisode Destination Auvergne-Rhône-Alpes, nous vous emmenons à la découverte du Diwa, territoire de pré-Alpes à l'environnement préservé aux sources de la Drôme. Le rendez-vous des amoureux de la nature et des sports de plein air. Commençons avec un hébergement insolite. En compagnie de Olivia Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'origine d'un projet bien original ici dans le Diwa. C'est cette maison zéro. Au-delà du nom qui effectivement tout de suite accroche, qu'est-ce que c'est que ce projet ?
Donc déjà, merci à vous pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Donc on a visité une maison dans le Diwa l'année dernière avec mon compagnon. Et on a eu un vrai coup de cœur pour cette maison qui est située à 15 minutes à pied de Die. Et en fait, moi, ça fait 12 ans que je bosse dans le tourisme et l'écologie, ce qu'on appelle le tourisme durable. Et quand on a vu cette maison et on a eu ce coup de cœur, on a vraiment eu envie de créer un gîte écologique. Donc, l'idée, c'était d'aller un peu plus loin que... Déjà, dans le Diwa, il y a plein d'hébergements qui font plein de super choses. Et nous, notre credo, c'est de vraiment parler aux clients sur l'expérience qu'il va vivre pendant ses vacances avec nous.
Cette maison est située dans un quartier plus ou moins proche de Habitaire, un quartier qui déjà a, dans son ensemble, pris un peu cette direction d'habitat, en tout cas répondant à des normes de qualité environnementale assez élevées, basse consommation, etc. Donc zéro, c'est zéro parce que zéro consommation...
Il y a plein de choses dans le zéro. Déjà, il y a le zéro déchet. Bon, à chaque fois qu'on dit zéro, l'objectif, c'est de tendre vers le zéro. Hein. On sait qu'on est tout à fait améliorable et l'objectif, c'est de s'améliorer au fur et à mesure. Donc, il y a le zéro déchet. L'idée, c'est d'accompagner les clients vers des solutions qui génèrent moins de déchets, bien entendu. Le zéro pollution de l'air. Moi, je suis très attentive à la qualité de l'air intérieur. On parle beaucoup de la pollution extérieure, mais moins la pollution intérieure, sachant qu'on passe 80% de notre temps chez nous, bon, peut-être un peu moins dans le Diwa, bien entendu. C'est une problématique qui est très importante pour nous. Le zéro gaspillage de ressources, ça va de soi. Hein. On est une maison RT 2012, très bien isolée. On passe chez Enercop pour l'énergie verte. On essaye d'être zéro digital. Ça, c'est plus compliqué pour les clients. On n'a pas de Wi-Fi, on n'a pas Linky, etc. Mais voilà, l'idée, c'est pas forcément se déconnecter complètement, mais en tout cas, tendre vers une déconnexion. On essaie d'être zéro surconsommation. L'idée, c'est d'être le plus minimaliste possible. C'est ce qu'on a essayé de faire quand on a créé cette maison, d'acheter le moins de choses possible, bien sûr en seconde main, si besoin. Et si vraiment besoin d'acheter des choses neuves comme la literie, et ben là, d'aller sur des marques qui sont... le plus possible made in France, local, éthique, écologique, etc., même si ce n'est vraiment pas une partie qui a été facile. Ensuite, dans le zéro, il y a le zéro prise de tête, parce qu'on veut que nos clients passent un moment agréable. C'est une belle maison, moderne, bien équipée. L'idée, c'est de concilier l'écologie et puis le plaisir. Et enfin, le zéro ennui, parce que dans le Diwa et dans le Vercors et plus généralement dans la Drôme, il y a plein de super choses à faire, de super expériences, qu'on soit sportif, qu'on soit fan du lâcher prise, etc. C'est vraiment, vous le savez mieux que moi, un coin qui peut plaire au plus grand nombre.
Peut-être que nous, on le sait, mais les auditrices, auditeurs, non, pas encore. Et en tout cas, pas partout en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le cadre de cette émission d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans les détails ? Est-ce que vous faites participer de manière un peu plus expérimentale, les clients, comme vous les appeliez, à toute cette démarche, par exemple sur le zéro déchet, j'imagine qu'eux, ils peuvent quand même en produire.
Oui.
On a le droit de s'acheter un pot de Nutella et des trucs suremballés quand on a...
Non, bien sûr, on n'est pas du tout extrême. Hein. L'idée, c'est que les clients, s'ils le souhaitent, participent avec nous à la création, la construction d'un monde de demain qui soit plus désirable, plus écologique, plus agréable. Mais c'est vraiment s'ils le souhaitent, s'ils n'ont pas du tout envie, ils peuvent venir dans la maison et juste profiter de la maison, de la vue et du coin. Mais s'ils ont envie, on leur propose quatre manières de s'engager. La première, c'est de respecter les éco-gestes, mais ça, pour nous, c'est une évidence, voilà, sur la consommation d'eau, d'électricité, tout ça, surtout en ces périodes où on sait que, voilà, des périodes de grosse chaleur, de sécheresse, etc.
Ça passe par quoi ?
Alors, on voulait mettre des petits panneaux un peu partout dans la maison, et en fait, on s'est rendu compte, bon, déjà, il y a la crise sanitaire qui est passée par là, donc le mieux, le plus on est épuré, le mieux c'est, et on s'est rendu compte quand même qu'on voulait pas, entre guillemets, saouler les clients avec ça. C'est-à-dire que c'est une démarche positive. S'ils ont envie, il y aura bien sûr des indications dans une sorte de petit classeur livret d'accueil qu'on va faire. Et voilà, j'estime que sur les éco-gestes, c'est aussi à nous, et sur tout qu'on va proposer, c'est à nous en tant que, qu'hébergement aussi de s'assurer qu'il y ait des mousseurs, par exemple, dans les douches, voilà, qu'on passe par Enercoop pour l'énergie. Donc, c'est aussi un travail main dans la main. Ensuite, ce qui est important pour moi, c'est qu'ils vivent des solutions ou des alternatives écolo. Et là, on va vraiment orienter sur le zéro déchet. Par exemple, quand ils arrivent, on fournit une petite éponge Tawashi, des éponges qui sont réutilisables. Il y a du sopalin, pareil, de l'essuie-tout réutilisable. Les pastilles, on les aura achetées en vrac. Pareil pour le gel douche, on l'aura acheté au petit ruisseau, voilà, dans la boutique zéro déchet qui a ouvert Adi l'année dernière. Donc, l'idée, c'est qu'avec des petites solutions, on n'est pas là pour révolutionner le monde, mais de leur montrer qu'en fait, c'est des petits déclics qu'ils peuvent avoir. Et s'ils veulent, après, quand ils rentrent chez eux, ils sont armés de ces solutions qui sont écologiques et qui sont aussi économiques. Le troisième point, c'est de mettre en valeur des marques ou des alternatives qui sont écologiques et éthiques. On a acheté le maximum de choses en France avec des critères assez, voilà, assez poussés. Et puis, quand on n'a pas réussi, on le dit clairement. Donc ça, dans la maison, les clients auront accès. Si, par exemple, ils adorent le matelas, on a acheté un matelas qui est made in France avec du latex naturel dans une petite boîte familiale qui est extra. Si les clients, ils ont super bien dormi et qu'ils ont envie, l'idée, ce n'est pas de pousser à la consommation, mais bien entendu, on partagera avec plaisir les bonnes adresses qu'on a trouvées. Et l'idée aussi, c'est de promouvoir tout ce qui est fait dans le DIY, notamment les savons qu'on a achetés chez Chloé, qui est à la fois bergère et savonnière. On achète beaucoup de choses aussi au Petit Ruisseau, la boutique Vrac dont je vous parlais. Donc, l'idée, c'est de valoriser aussi le territoire et de dire aux gens, vous avez par exemple bien aimé un jeu coopératif, vous pouvez l'acheter à 10 sur la place du marché.
À l'as de
trèfle. Donc, c'est le troisième volet. Et la quatrième façon de s'impliquer, c'est par les activités. Parce que souvent, on oublie, une fois qu'on a choisi la destination, le transport et l'hébergement, pour avoir une démarche écologique globale, si on le veut, c'est avec les activités qu'on va choisir aussi sur place. Donc, on a listé, grâce à l'Office du tourisme et puis à plein d'expériences qu'on a dans le coin, des activités qu'on peut faire à pied, en vélo, etc. Plein de randos qu'on peut faire au départ du gîte. Ça nous a été permis aussi grâce au confinement. Si on voit les bons côtés des choses, on s'est rendu compte qu'à 1 km du gîte, il y avait plein de choses à faire. Et on propose pour finir des petits kits do it yourself dans la maison. Si les gens ont envie de fabriquer avec des enfants une pâte à modeler, s'ils ont envie de faire des pastilles de la vaisselle ou leur lessive, voilà, ça c'est vraiment, s'ils ont envie, ils peuvent découvrir ces petites choses-là.
Cette maison zéro, maintenant l'instant promo, où est-ce qu'on vous trouve? Combien ça coûte? Comment on réserve?
Donc vous pouvez trouver toutes les infos sur le site lamaisonzéro.fr. Donc on a un calendrier avec les disponibilités et les prix. Les prix, ça varie bien sûr en fonction de la durée et de la période. Là, il nous reste par exemple une dernière semaine au mois de juillet, où la semaine coûte 1 200 €. Donc, c'est un gîte qui est jusqu'à 10 ou 14 couchages. Puis, l'idée, c'est aussi qu'on soit en lien avec nos futurs clients. Donc, si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à m'appeler. Il y a mon numéro sur le site ou à communiquer par mail, par WhatsApp, etc. Et on essaye d'être actif aussi sur Instagram parce qu'on s'est rendu compte que les gens étaient très friands de belles photos et de découvrir le concept et aussi les coulisses. C'est-à-dire qu'on communique sur les choses qui vont bien et puis des fois, on communique aussi sur des choses qui vont mal, les travaux en retard, le confinement, etc. Mais on essaye d'être participatif aussi avec nos clients en amont et pendant le séjour.
Est-ce qu'il y a un projet à suivre? Un petit scoop?
Un petit scoop? Déjà, on a ouvert il y a quelques semaines, donc déjà un grand scoop d'être prêt. Et ce qui est important pour nous, c'est aussi de travailler avec le territoire. Donc, on a récemment intégré le réseau La Bio-Vallée avec le réseau d'éco-hébergeurs. Et l'idée, c'est de promouvoir la vallée et le DIY et pas seulement... dire venez dans notre super maison zéro, mais venez dans le DIY, il se passe plein de super choses.
Merci Olivia Robert, lamaisonzéro.fr sur internet et Adi, bien sûr, c'est le chemin des combes, voilà, pour monter vers le hameau de Plat ou le quartier Habiter. Bonne saison.
Ben, merci beaucoup, merci à vous.
Destination Auvergne-Rhône-Alpes, à la découverte du Diwa dans la Drôme et plus particulièrement à présent, d'un petit paradis enclavé à la frontière de l'Isère et des Hautes-Alpes. Salut Jean-Marc.
Bonjour Baptiste.
Jean-Marc Jacquet, accompagnateur en moyenne montagne à Luz-la-Croix-Haute et précisément dans le vallon de la Jarjatte. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce vallon de la Jarjatte classé pour sa faune et sa flore tout d'abord, mais aussi pour être à la frontière entre cette enclave de la Drôme qui est Luz-la-Croix-Haute, le Dévoluy et puis le Buëche évidemment qui va se jeter dans la Durance. Jean-Marc, tu amènes des gens là-bas depuis combien de temps en randonnée ?
Alors nous, ça fait 15 ans qu'on est installé sur le vallon et qu'on développe une structure de type gîte d'étape et de séjour, qui a évolué aujourd'hui vers de l'organisation de séjours avec activité. Et sur deux axes principaux, c'est d'une part la randonnée, évidemment, parce que je suis accompagnateur en montagne, et puis également des activités bien-être, en particulier le yoga. Donc on propose des offres de séjours qui en général mélangent un peu les deux, c'est-à-dire à la fois du yoga et à la fois de la randonnée. Et on a un territoire absolument, c'est vrai, exceptionnel pour ça. Alors, c'est vrai que tu parles du vallon de la Jarjatte, mais c'est pas que le vallon de la Jarjatte. Luz-la-Croix-Haute, c'est un territoire un peu particulier avec un potentiel de rando énorme. Il y a plein d'autres secteurs intéressants sur notre commune. Alors, si on se recentre sur le vallon, qui a une identité particulière, parce que c'est un site classé national, et il a été classé pour le caractère, je crois que c'est écrit comme ça dans les textes, pour le caractère pittoresque de ses paysages. Et en fait, c'est vrai qu'on rentre dans un vallon à une ambiance très spectaculaire. Alors même si sur le plan de la géologie, ça n'a pas grand-chose à voir, on fait souvent le rapprochement avec les paysages des Dolomites.
Ah oui.
Voilà, on est sur la bordure donc est de la commune, dans ce vallon. Et là, il y a des falaises tout à fait spectaculaires, des grandes aiguilles percées de, on appelle ça dans le dévolu, de forum, etc. Donc il y a un paysage déjà très marqué par ces ambiances verticales et minérales caractéristiques du massif du dévolu. Ça, c'est vraiment le vallon de la Jarjatte. Et comme c'est un lieu qui a toujours été très préservé parce que on n'y fait que des activités très traditionnelles, fourrage, élevage d'ovins, de vaches, etc., on a un biotope et une biodiversité assez exceptionnelle sur ce site. Il est dans un secteur Natura 2000. Donc il y a différents programmes d'action qui sont menés pour la préservation du milieu. Alors ça va de la préservation des arbres, les spécialistes disent sénescents, par exemple, donc les vieux arbres qui sont des niches pour la biodiversité. On a deux sites un petit peu particuliers et très intéressants sur le plan de la faune et de la flore, c'est le permafrost de la Combe Obscure. Donc si c'est pas le plus méridional, c'est un des plus méridionaux des permafrosts, c'est-à-dire de zones où le sol est gelé en permanence, avec un développement d'une flore spécifique sur ce secteur-là. On a également le lac du Lauzon.
Eh oui.
Je ne sais pas si tu en as entendu
parler. Ah bah oui,
parler.
Magnifique, obligatoire pour la montée au fameux Grand Ferrand.
Voilà, alors c'est quand même une rando qui se gagne un petit peu. Hein.
Ah oui.
Voilà.
D'ailleurs, pardonne-moi, mais tu as le droit de monter, toi, au Grand Ferrand ? C'est pas du guide ?
Alors, on est juste à la frontière.
Ah oui.
Voilà. C'est-à-dire qu'un accompagnateur peut emmener des gens au Grand Ferrand, mais il faut quand même réfléchir un petit peu. Il faut mettre un peu les mains sur certains secteurs qui sont exposés. Quand on dit exposé, dans notre jargon, ça veut dire qu'il y a un risque de chute dangereux. Donc, il faut des gens d'abord qui aient la capacité, et puis des petits groupes, 3-4 personnes hein, maximum, parce qu'on est sur des zones au rocher fortement délité, donc des risques de chute de pierre. Voilà.
Le Grand Ferrand, je le précise hein, pour les auditrices auditeurs qui sont bien loin de notre secteur, c'est la possibilité, d'ailleurs, à Luz-la-Croix-Haute, par ce vallon de la Jarjatte, d'atteindre les 3000 finalement.
Non, on est juste en dessous.
Juste en dessous,
Grand Ferrand, on est entre 2700 et 2800 mètres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fond du vallon de la Jarjatte, c'est les sources du Buëch. Donc c'est une très belle rivière, encore assez sauvage, en tout cas sur sa partie supérieure, et qui a ouvert une vallée jusqu'à Sisteron, la vallée du Buëch. Donc nous, on marie un petit peu les deux ambiances, à la fois des Alpes du Nord, ambiance très montagnarde, donc avec ses reliefs très escarpés, une ambiance alpine très marquée, qui sont peu habituelles pour les Dromois, mais en même temps, on bascule tout de suite sur des ambiances très marquées par un climat méridional. Ce qui explique la grande diversité en termes de biodiversité et de flore en particulier. C'est-à-dire qu'on trouve à la fois une flore d'influence Alpes du Nord et une flore d'influence méditerranéenne. Le lac du Lauzon, il a une caractéristique particulière, c'est que c'est un lac à ces altitudes-là, donc proche des 2000 mètres. Sur les préalpes françaises, c'est le seul lac d'altitude naturelle. On ne va pas trouver ce type de formation, on pourrait presque dire géologique, en Chartreuse, en Vercors.
C'est une sorte d'impluvium naturel. Hein,
oui, exactement. Ouais. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les gens ne sont jamais déçus parce que l'endroit est absolument magnifique. Mais voilà, c'est pas le lac cristallin qu'on le retrouve dans le Mercantour, dans le massif de l'Oisan ou dans le massif du Mont-Blanc. C'est un lac qui est en voie de trophisation, comme on dit, et donc qui est plutôt en train de se fermer. Voilà. Mais ça reste un lieu tout à fait sympa, quoi, magique.
Tu me donnes l'occasion de t'interroger un peu plus sur ce réchauffement climatique. Tu parlais de ce permafrost, un des plus méridionaux. Est-ce qu'il tient encore ?
Alors, il tient encore, il est surveillé, donc je crois qu'il y a un arrêté préfectoral dessus, hein, donc des mesures de protection d'une part, et puis de surveillance. Alors, je ne sais pas quel est l'organisme qui fait les relevés annuels, mais il y a des relevés annuels, et c'est toujours aujourd'hui, quand on y parvient, au niveau de la flore, en tous les cas, on ne voit pas d'évolution particulière du milieu, c'est-à-dire qu'on va trouver une flore qui n'est pas habitué à pousser sur un milieu calcaire. Alors, je vais rentrer dans des éléments un peu techniques, peut-être.
Ah oui, et puis cite-nous des flores.
Et surtout, qui n'est pas la bonne altitude. Voilà. On arrive sur le permafrost et on trouve de la dryade à 8 pétales qui, en général, pousse à 500 ou 600 mètres au-dessus de cette altitude. Donc, elle trouve ici des conditions de froid qui la satisfont. De manière anecdotique, en fin de compte. Hein. Elle ne devrait pas être là. On va trouver aussi du rhododendron ferrugineux. Il n'y en a pas dans nos massifs calcaires en général, sauf sur des sols très lessivés, etc. Et là, on a une population de rhododendrons ferrugineux qui sont vraiment beaucoup plus typiques des massifs granitiques, acides, des sols acides, alors que là, on est sur du sol tout à fait basique de type calcaire. Donc aujourd'hui, c'est un site qui a l'air de se maintenir malgré le réchauffement. Voilà. On note une évolution plus marquée là depuis 15 ans sur le lac du Lauzon qui a tendance à vraiment se refermer.
Une faune caractéristique du secteur ?
Caractéristique, non. On a une faune très riche. Ça part des insectes. Alors, j'évoquais tout à l'heure, dans le cadre du contrat Natura 2000, ils ont mené un projet d'action qui vise à préserver le vieillissement des vieux arbres. L'exploitation forestière ne favorise pas culturellement dans notre pays le vieillissement des arbres. Ici, on a décidé de protéger les arbres les plus anciens, qui sont des niches écologiques importantes. Donc, par exemple, on va avoir le développement assez marqué d'espèces fragiles, comme la rosalie des Alpes au niveau des insectes. L'installation dans ces arbres de toute une biodiversité, de type chouette de Telman, écureuils, martres, etc., qui trouvent sur le secteur des endroits favorables à leur développement.
Et puis dans les majestueux, j'ai entendu dire un jour, tu me corriges, que le lynx passait aussi par cet endroit.
Alors on n'en est pas sûr.
On trouve des pattes quand même, c'est ça, non ?
Sur le vallon. vallon de la Jarjade, je ne sais pas, sur un très beau secteur de Luslac-Rohaute, on en a évoqué d'autres. Bon, pour le coup, je vais mordre un petit peu sur la commune d'à côté, Saint-Julien-en-Beauchesne, mais il y a un très très bel espace qui s'appelle la forêt domaniale de Durbon, qui est très très bien géré par l'Office national des forêts, où il y a eu des indices de présence du lynx. C'est un animal qui a un territoire très vaste, qui est très furtif, et pour l'instant, je n'ai pas connaissance d'informations fiables comme quoi il y aurait des lynx sur notre secteur, de manière régulière en tous les cas. Par contre, on a d'autres grands prédateurs, comme le loup aujourd'hui, qui s'est très très bien installé, et des grands cervidés, des grands ongulés, cerfs, chevreuils, sangliers bien entendu, et des très belles populations de chamois en particulier. On n'a pas de bouquetin, parce que c'est une espèce qui a un mode de vie particulier et qui est très sensible depuis des millénaires hein, à la chasse, et qui a été détruite il y a déjà 150 ou 200 ans sur le massif ici, et qui n'a pas été réintroduite. Donc il faudrait l'aider pour qu'il revienne. C'est un grand projet.
Jean-Marc, ton gîte, tu ne l'as pas cité, alors je le fais, c'est le Valgabondage. Pour terminer, peut-être un peu de promo là-dessus, et puis dis-nous ce que c'est que cette histoire de yoga. Alors une fois qu'on a marché pendant 6 heures avec toi, on s'étire.
Oui, l'idée, on a pris ce tournant il y a très longtemps maintenant, il y a plus d'une dizaine d'années. D'abord, ma compagne Cathy, qui pilote le gîte ici, est une pratiquante depuis très très longtemps. Elle s'est formée pour ça. On a créé une salle d'activité très confortable pour ça. Et donc, on développe et on accueille des séjours qui mixent à la fois la randonnée et le yoga. Et en même temps, on a souhaité avoir une politique d'accueil là-dessus assez poussée. Donc on a plein d'enseignants de yoga qui sont tous des professionnels, ça on y tient beaucoup, qui viennent organiser leur séjour chez nous. La promo c'est très facile, alors tu as parlé de Valgabondage, c'est ça.
Oui.
Le site internet c'est très très facile, c'est jarjate.fr.
Ah oui, vous êtes les seuls.
On est les seuls.
Jean-Marc, merci pour ce petit tour rapide de ce qu'on peut trouver, voir dans le vallon de la Jarjate. Évidemment, on invite tout le monde à s'y rendre de visu. Parce que c'est
un
comme
grand
ça
merci
qu'il faut
à toi, Baptiste. Merci à tes auditeurs. Au revoir.
C'était Destination Auvergne-Rhône-Alpes, la chronique estivale des radios de la Fédération Aura FM, Fédération des radios associatives non commerciales Auvergne-Rhône-Alpes. Retrouvez toutes les productions de cet été sur le site aurafm.org.